Bonjour à tous, aujourd'hui enquête sur un des combats perdus de Nicolas Hulot. Nous allons vous révéler comment le ministre de l'Agriculture a torpillé plusieurs mesures en faveur du bien-être animal que soutenait son collègue du gouvernement. C'est vous qui allez nous expliquer ça, Laetitia Chérel, bonjour.
Bonjour.
Et puis nous recevrons Olivier Van Bemmen, bonjour.
Bonjour.
Alors vous publiez Heineken en Afrique, c'est un livre enquête qui montre que le groupe de bière néerlandais s'est accommodé et a même très bien vécu sous bon nombre de dictature.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Je n'ai pas réussi, par exemple, à créer une complicité de vision avec le ministre de l'Agriculture, alors que nous avons une opportunité absolument exceptionnelle de transformer le modèle agricole. Moi, je ne peux pas passer mon temps dans des querelles avec Stéphane Travert et donner le sentiment que je peux être sur tous les fronts. Résister à la croisée de tous les lobbies, parce que les lobbies sont là.
Voilà, ça c'était mardi dernier en direct sur France Inter. En annonçant sa démission, Nicolas Hulot explique qu'il regrette de s'être trouvé trop souvent en opposition avec le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, et il déplore l'omniprésence de lobbies qui parasiterait, dit-il, l'action politique. Alors maintenant, en quoi Stéphane Travert aurait-il joué contre lui? Comment ces lobbies auraient-ils manœuvré? Eh bien, nous avons enquêté pour le comprendre, et nous avons pour cela analysé ce qui s'est passé au printemps dernier, lors du débat sur la loi alimentation. Des avancées sur le bien-être animal souhaitées par Nicolas Hulot avaient été intégrées à cette loi. Or, Laetitia Chérel, il faut le constater, effectivement, la plupart d'entre elles sont passées à la trappe.
Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord revenir à une promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui est très révélatrice. En février 2017, il n'est alors que simple candidat et il s'engage à interdire la vente d'œufs issus de poules élevées en batterie, c'est-à-dire élevées en cage, et ça pour 2022. Il le dit sur le site Facebook de l'association WWF.
Moi je souhaite que, et je prends même l'engagement, que ce soit interdit dans les grandes surfaces de vendre des œufs issus des élevages en batterie. Et ça veut dire qu'on a vraiment maintenant la garantie, moi je veux qu'on puisse l'apporter à nos concitoyens, que quand on va acheter ses œufs au supermarché, dans une épicerie ou ailleurs, eh bien derrière, il y a le respect du bien-être animal qui est en même temps le respect d'une qualité pour le consommateur.
Oui, c'est vrai que dit comme ça, ça paraît évident, hein, Laetitia. Sauf que cet engagement pris à ce moment-là par Emmanuel Macron, il provoque tout de suite des réactions.
Ah oui, les producteurs d'œufs, furieux, montent au créneau. 15 jours plus tard, ils rencontrent le candidat Macron au Salon de l'Agriculture, lequel lâche déjà du lest devant eux, comme on va l'entendre dans cette vidéo publiée sur le compte Facebook d'Emmanuel Macron. Alors tendez bien l'oreille parce que la qualité du son n'est pas très bonne.
Je ne vais pas en faire un objectif de campagne au gouvernement. Donc, on va la fermer là-dessus. J'en fais pas un...
Oui, alors ce qu'on entend là, c'est « je ne vais pas en faire un objectif de campagne, donc on va la fermer là-dessus ». Mais il dit aussi aux industriels, Laetitia, « gardez quand même cette promesse en tête ». Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, certes, il la met un peu en veilleuse, on pourrait dire, mais il ne lâche pas pour autant sur le fond.
Et la preuve, c'est qu'en octobre 2017, devenu président, Emmanuel Macron est à Rungis pour lancer les états généraux de l'alimentation et il renouvelle clairement sa promesse.
J'ai pris l'engagement pendant la campagne que les œufs vendus aux consommateurs ne seraient issus que d'élevage en plein air d'ici 2022. C'est parce qu'aussi nous pouvons ensemble atteindre cet objectif. Ça n'est pas pour stigmatiser les éleveurs qui ont déjà fait énormément d'investissements. Il est évident que si nous restons dans la guerre de position actuelle, on ne fera rien.
Ouais, donc à ce moment-là, le président, hein, ça paraît clair, est toujours déterminé.
Et d'ailleurs, 5 mois plus tard, en février 2018, son ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, confirme tout ça chez nos confrères d'Europe 1.
À l'horizon 2022, nous souhaitons que les œufs coquilles, c'est-à-dire que les œufs que vous consommez en coquille, soient issus d'élevage en plein air,
ou les en tous les cas, interdits.
Ne soient plus issus d'élevage en cage. C'est un engagement de campagne du président de la République, il sera tenu.
Donc tout le monde dit la même chose, on l'entend. Sauf que, Laetitia, eh bien, les choses ne vont pas se passer comme ça.
Effectivement, hein, immédiatement après cette interview, les producteurs d'œufs vont tirer à boulets rouges sur Stéphane Travert, sur les réseaux sociaux. Et dans un communiqué que nous avons fait lire, ils sont presque menaçants.
Les producteurs d'œufs ne peuvent pas laisser les choses en l'état. En conséquence, après avoir discuté avec leurs parlementaires locaux et avant la discussion devant l'Assemblée nationale, il se réserve la possibilité, comme ça a déjà été le cas par le passé, d'agir de manière plus directe.
Alors, des communiqués de ce type, il y en a bien d'autres, comme celui de la FNSEA. Dans la foulée, les professionnels des œufs demandent un rendez-vous au ministre, rendez-vous qu'ils obtiennent.
Et c'est là, semble-t-il, Laetitia, que les choses basculent.
Oui, parce qu'ensuite, à l'Assemblée nationale, le discours du ministre a changé. Contrairement à ce qu'il a affirmé quelques semaines plus tôt, là, plus question d'interdire les œufs de poule en cage. Et de fait, en séance, tous les amendements sur ce sujet sont rejetés.
Le scrutin est clos. Résultat pour 5 contre 59. L'amendement 2020 n'est pas adopté.
Donc exit l'interdiction des œufs de poule en cage. Mais Laetitia, ça veut dire que rien ne bougera ?
Alors oui et non. Non parce qu'il n'en est plus question dans la loi, mais ça bouge un peu quand même parce qu'en contrepartie, le gouvernement demande aux producteurs de s'engager eux-mêmes à supprimer les œufs issus de poules en cage. Écoutez comment Stéphane Travers justifie ce changement de stratégie.
Une interdiction enverrait un signal contraire à la filière et en outre, elle ferait porter la charge uniquement sur le producteur, qui sont déjà parfois dans des situations économiques très, très difficiles et sans rémunération supplémentaire.
Ouais, le résultat de tout ça, Laetitia, c'est que donc on n'interdit plus dans la loi, ça c'est fini, mais on va quand même demander aux éleveurs de faire un effort.
Oui, c'est ça. Et en l'occurrence, les producteurs se sont réellement engagés à en finir avec les œufs de poule en cage. Ils l'ont fait dans ce qu'on appelle un plan de filière. Certains s'interrogent sur les limites de cette stratégie. C'est le cas de Jean-Pierre Kieffer, le président de l'OABA, l'Association de défense des animaux d'abattoir. Il considère qu'exiger un simple plan de filière, c'est très insuffisant.
Un plan de filière, c'est une filière, c'est-à-dire par exemple les poules pondeuses, les bovins, l'élevage des porcins, qui doit faire un document dans lequel il prévoit des aménagements, des améliorations. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'aspect contraignant, c'est-à-dire ils ne disent pas « je m'engage à ce que ce soit comme cela ». Ce sont des vœux pieux que les filières essayent de faire passer.
Des vœux pieux sans contrainte ni sanction. On est effectivement assez loin de la promesse d'interdiction d'Emmanuel Macron. Maintenant, comment Stéphane Travers a pu changer aussi radicalement de position ?
Alors, je l'ai rencontré et je lui ai posé la question. Et il m'a expliqué que la loi, ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace.
Vous savez, l'histoire nous montre que sur beaucoup de sujets, il y a des choses qui ont été inscrites dans la loi sans pour autant que les choses soient effectives au moment où la loi devait s'appliquer. Tout ne peut pas être dans la loi. Ce n'est pas parce que ce n'est pas dans la loi que l'on ne fait pas.
Tout ne peut pas être dans la loi, mais il y a quand même eu un amendement qui a été adopté sur le sujet.
Oui, mais cet amendement interdit seulement la construction de nouveaux élevages de poules en cage. Or, les élevages de ce type, il y en a de moins en moins. Pourquoi ? Parce que les Français consomment de moins en moins d'œufs de poules en batterie. Ils préfèrent le bio. Donc, cet amendement, c'est un peu de la com' pour les défenseurs de la cause animale.
Ouais, ce qu'il faut aussi savoir, Laetitia, c'est que cet amendement, il a été élaboré avec les producteurs d'œufs.
Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre Travers lui-même à l'Assemblée le 27 mai dernier.
Moi, je veux souligner la qualité de la co-construction gouvernement, filière, commission. Et l'amendement, il a été travaillé avec la filière dans un rendez-vous qui a permis de trouver cette solution.
Et j'ajoute que ce même jour, Stéphane Travers se félicite de cette collaboration avec les producteurs d'œufs dans un tweet. Un tweet effacé quelques heures plus tard, mais que l'association L214 a conservé. On peut le voir sur notre site internet.
Bon, on ira le voir. En tout cas, ce qu'il faut aussi préciser, Laetitia, c'est que au cours de ce débat, la filière aura utilisé tous les arguments possibles pour faire valoir son point de vue.
Et y compris les plus surprenants. Écoutez par exemple ce que le député Les Républicains Thibault Bazin a dit devant la commission des affaires économiques pour défendre l'élevage en cage.
Pour nous, l'élevage à l'intérieur évoque la prison, alors que la poule peut être stressée à l'extérieur, selon Christine Leterrier, qui est spécialiste des émotions chez les oiseaux d'élevage. Et puis, en bâtiment, il y a un truc sympa, les copains. Les poules sont des animaux très sociaux, et d'ailleurs, il y a une mortalité plus élevée dans les élevages en plein air.
En cage, on se fait des copains. Bon, sauf que vous avez interrogé Christine Leterrier, qu'on vient de citer, hein, c'est la chercheuse de l'INRA dont parle ce député, et elle conteste ce qu'on vient d'entendre.
En tout cas, elle juge qu'on a déformé ses propos, et elle aurait bien aimé que ce député lui demande son avis au lieu de parler à sa place.
J'aurais souhaité être interrogée directement, puisque j'aurais pu expliquer le point de vue scientifique qui aurait permis de ne pas aller dans le sens dans lequel allait cette personne. D'un point de vue scientifique, il est beaucoup plus bénéfique aux poules d'être élevées en plein air par rapport à l'élevage en cage. Ça, je pense qu'aucun scientifique ne peut remettre ça en question.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Alors, on a vu comment une promesse de campagne s'est finalement transformée en un engagement non contraignant pour la filière des œufs. Maintenant, on va voir, Laetitia Chérel, que dans cette loi alimentation, il y a une autre mesure à laquelle tenait Nicolas Hulot et qui a également été torpillée.
Alors ça, c'était une autre promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Candidat, il s'était engagé à rendre obligatoire la présence de caméras de surveillance à l'intérieur des abattoirs. Il l'avait fait après l'émotion provoquée par plusieurs vidéos de l'association L214 qui montrait des scènes assez insoutenables.
On s'en souvient. D'ailleurs, l'installation de caméras dans les abattoirs, Laetitia, c'est pas nouveau. L'Assemblée l'avait déjà voté en première lecture sous le précédent gouvernement, mais l'adoption n'était pas allée au bout.
Effectivement. Alors avec la promesse d'Emmanuel Macron, on pouvait penser que cette mesure serait enfin intégrée dans la loi alimentation. Sauf que là encore, les choses ne se sont pas passées comme prévu.
Et pourquoi ?
Eh bien parce que, comme avec les poules, la pression des industriels a été intense. Exemple, cette mise en garde de la FNSEA, la veille du débat à l'Assemblée. Nous en avons fait lire un extrait.
Alors que demain, le projet de loi pour une alimentation saine et durable sera en discussion au Parlement, nous attirons l'attention des parlementaires sur le fait qu'il serait totalement contre-productif de créer trop de normes nouvelles qui engendreraient toujours plus de charges et de distorsions de concurrence. Sur le bien-être animal, par exemple, ne faisons pas de surenchère.
Voilà, le message est clair et à partir de là, la machine va se gripper.
Et les mêmes causes vont provoquer les mêmes effets. Certains députés de la majorité vont renoncer à se battre sur le sujet. C'est ce que m'a expliqué Sylvain Dibiane de l'association L214.
Sur le bien-être animal, nous avons dénombré une cinquantaine de députés du groupe En Marche qui n'ont soit pas défendu leurs amendements ou les ont retirés en séance avant même qu'ils soient votés. Pourtant, c'était des députés qui étaient sensibles à la condition animale et aujourd'hui on est en droit de s'interroger pourquoi est-ce qu'ils ont renoncé.
Bah oui, bonne question Laetitia. Pourquoi est-ce qu'ils ont renoncé ?
Alors certains m'ont dit qu'ils avaient subi des pressions du groupe En Marche. Un autre député En Marche, Loïc Dombreval, est encore lui plus explicite. Son cas est emblématique parce qu'il est le président du groupe d'études sur la condition animale à l'Assemblée nationale et il est donc très investi sur le sujet. Il avait déposé une dizaine d'amendements, dont un pour rendre les caméras obligatoires dans les abattoirs, mais il ne les a même pas soutenus en commission des affaires économiques et il nous explique pourquoi.
De toute façon, c'était peine perdue.
Pourquoi ?
Mais parce que j'ai eu toute une série de discussions préalablement à la commission des affaires économiques et où je me suis rendu compte qu'il était inutile d'aller plus loin. C'est-à-dire que j'avais un veto strict, définitif, sur un certain nombre d'amendements que je voulais porter.
Quand vous parlez d'un veto, c'est un veto de qui ? Vous dites « j'ai eu un veto ».
Mais veto du gouvernement, veto du cabinet du ministre, veto du rapporteur et de la responsable de texte.
Vous voulez dire que c'est le ministre qui vous a appelé pour vous dire « non, ça passera pas » ?
Mais c'est comme ça, toujours comme ça que ça se passe. Il y a une négociation entre le ministre, les députés et les rapporteurs. C'est une méthode tout à fait classique et de tout temps, ça a toujours été comme ça.
Ah oui, on ferait marcher les députés au pas. Mais Stéphane Travers, lui, il en dit quoi ?
Alors, il reconnaît s'être opposé aux amendements sur la présence des caméras dans les abattoirs, mais il dément avoir imposé quoi que ce soit aux députés.
Moi, je n'ai jamais exprimé un veto vis-à-vis d'un député. Jamais je n'ai demandé à un député de ne pas défendre ses amendements. Ensuite, il est de ma responsabilité de ministre au sein de ce gouvernement d'y donner une suite favorable ou défavorable. Les réponses que j'ai pu formuler ont toujours été motivées, expliquant pourquoi nous acceptions un amendement ou pourquoi nous refusions cet amendement.
Donc pas de veto, pas de pression, dit Stéphane Travert. Bon, maintenant, il avait quand même de bons relais au sein de l'Assemblée.
Oui, et en particulier le rapporteur de la loi, Jean-Baptiste Moreau. C'est un éleveur et un ancien directeur d'abattoir, ce qui, pour Yves Jégo, l'ex-député UDI, pose quand même problème.
C'est important le rapporteur, c'est celui qui est l'interlocuteur du gouvernement. Sa profession, c'est éleveur. Évidemment, comment ne pas comprendre qu'en tant qu'éleveur, il s'opposait à toutes les mesures qui pouvaient être favorables au bien-être animal et qui pouvaient être considérées comme peut-être défavorables à l'agriculture traditionnelle. Il a même été jusqu'à déposer de sa propre initiative un amendement pour interdire qu'on puisse parler de steak végétal. Donc on voit bien que la personnalité même du rapporteur qui a été choisi par le gouvernement sur cette loi était une personnalité qui n'était pas neutre, mais qui participait à cette barrière invisible dressée par les lobbies du monde agricole pour empêcher qu'un certain nombre de sujets ne prospèrent.
Et ces lobbies, ils sont très efficaces puisque dans ces moments-là, c'est toute une organisation qui s'active pour défendre ses intérêts.
C'est justement ce que m'a raconté le député Olivier Falorni. C'est lui qui avait rédigé la proposition de loi en 2017 qui devait rendre obligatoires les caméras dans les abattoirs. Il se souvient que les éleveurs s'étaient déjà mobilisés contre le texte à l'époque.
J'ai souvenir, par exemple, d'un mail d'Interbev, qui est l'interprofession de l'industrie de la viande, et qui avait listé les députés membres de la commission d'enquête, lorsque j'en étais président, pour déterminer les pro-viandes et les anti-viandes. C'est-à-dire que l'industrie de la viande avait listé ceux qui auraient pu faire capoter, saboter l'idée du contrôle vidéo, avant même qu'une proposition de loi puisse être proposée. Ça montre bien qu'il y avait une volonté, dès le départ, d'empêcher ce dispositif d'exister.
Et résultat, Laetitia, c'est que comme pour les œufs, eh bien un an plus tard, rebelote, au final, l'obligation de la vidéo ne figure toujours pas dans un texte de loi.
Oui, parce que le gouvernement a refusé de l'intégrer dans la loi et l'a remplacé par une simple expérimentation pendant 2 ans et uniquement dans les abattoirs volontaires.
Ah oui, autrement dit, si je suis un mauvais élève, je ne suis pas obligé d'en installer.
Exactement. C'est pour ça que les associations de protection des animaux ont le sentiment d'avoir été flouées. Certains vétérinaires regrettent également ce recul. C'est le cas de Michel Coura qui effectue des audits dans les abattoirs pour l'une de ces associations et il nous explique pourquoi.
Les bons abattoirs demandent que les animaux soient manipulés avec douceur, c'est-à-dire soit avec les mains, soit avec des cannes en plastique qui ne font pas mal ou quoi que ce soit. Et ils ne peuvent utiliser des aiguillons qui délivrent un courant électrique que si l'animal vraiment ne répond pas à toutes les autres sollicitations. Et dès que vous détournez un petit peu les yeux, comme par hasard, si vous allez vous cacher et vous réobservez le salarié, il va se mettre à utiliser à tour de bras cet aiguillon électrique parce que l'animal va avancer plus vite. C'est malheureusement très fréquent. C'est-à-dire, pratiquement, dans tous les abattoirs que j'ai pu auditer récemment, une fois sur deux, l'opérateur qui s'occupe de l'avancée des animaux a tendance à réutiliser l'aiguillon électrique sans raison.
Oui, d'où la déception des associations. Une déception d'autant plus forte, Laetitia, qu'on a évoqué là deux mesures qui sont passées à la trappe, mais il y en a eu bien d'autres.
Oui, rien sur l'interdiction du broyage des poussins, rien sur l'interdiction de la castration à vif des porcelets. Mais pour le député Loïc Dombreval, qu'on a entendu tout à l'heure, on a sans doute fait une erreur en voulant faire avancer la cause animale dans une loi qui ciblait surtout l'amélioration de la situation des producteurs.
Moi, je pense qu'il aurait fallu, sur cette question du bien-être animal, la dissocier de cette loi alimentation et en faire une loi, un projet de loi en lui-même. Il y a eu des attentes extrêmement fortes qui ont été manifestées et elles n'ont pas été couronnées de succès parce que, à la fin de la fin, les filières et les paysans disaient « Nous, ce qu'on veut, c'est avoir de meilleurs revenus. » Or, ce que vous voulez nous imposer en matière de bien-être animal n'est pas de nature à générer de meilleurs revenus pour nous. Au contraire. Et je pense que c'est la raison pour laquelle toutes les avancées qu'on aurait pu rêver, souhaiter, n'ont pas vu le jour.
Et d'ailleurs, selon nos informations, Nicolas Hulot travaillait à une loi sur le bien-être animal.
Mais justement, dites-moi Laetitia, en même temps, dans cette affaire, Nicolas Hulot, lui, il n'est jamais venu à l'Assemblée nationale.
Oui, c'est vrai, parce que l'ex-ministre de la Transition écologique a sans doute très vite compris que les arbitrages ne lui étaient pas favorables. Mais il faut savoir que déjà fin 2017, il avait boycotté la clôture des États généraux de l'alimentation parce qu'il considérait qu'il n'allait pas assez loin.
Oui, on peut même se demander d'ailleurs si à Matignon, on ne préférait pas finalement que Nicolas Hulot ne soit pas en première ligne sur ce dossier.
Alors à ce sujet, deux proches de Nicolas Hulot m'ont rapporté une anecdote. En juin dernier, une association a organisé un colloque sur le bien-être animal et Nicolas Hulot y était invité. La veille, il aurait reçu un coup de fil du Premier ministre Édouard Philippe pour lui demander de ne pas y aller, mais il y est allé quand même.
Ouais. Ce sont donc en tout cas toutes ces querelles, tous ces arbitrages perdus qui, ajoutés à bien d'autres dossiers, hein, faut pas simplifier, auraient finalement donc eu raison du ministre. Bon, maintenant, ce qu'on oublie parfois, Laetitia, c'est que cette loi alimentation, Nicolas Hulot n'est pas le seul à l'avoir en travers de la gorge.
Alors c'est vrai que s'il n'a pas la même épaisseur médiatique, l'ex-député UDI, Yves Jégot, a mis lui aussi fin à sa carrière politique en juin dernier, après ce débat sur la loi alimentation.
Ce serait faux que de dire que c'est la loi qui a déclenché mon départ. C'était quelque chose qui était travaillé, mais ça a participé largement à me convaincre qu'au fond, même sur des sujets qui peuvent sembler des sujets consensuels, le bien-être animal, eh bien que même ça, on n'arrivait pas à le faire passer, alors que nous étions convaincus sur tous les bancs de l'Assemblée, dans tous les groupes, nous étions un certain nombre à être convaincus que ça allait dans le bon sens. Je pourrais signer ce que dit Nicolas Hulot à ma modeste place pour dire mais il faut qu'on s'interroge sur effectivement cette question des outils de la démocratie qui permettent pas d'avancer et qui donnent une très mauvaise image de la politique aux Français.
Mais ça veut dire qu'il n'y a rien à attendre à court terme dans la loi sur le bien-être animal, Laetitia ?
Alors, cette semaine, Stéphane Travert a bien fait des annonces à ce sujet, mais quand on y regarde de plus près, il ne s'agit que de reprises d'amendements qu'il avait lui-même rejetés. La loi alimentation, elle, reviendra bien dans 15 jours à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, mais a priori, pas d'avancée spectaculaire à en attendre.
Ouais. Merci Laetitia Chérel pour cette enquête, une enquête qu'on peut retrouver sur franceinter.fr, qu'on peut commenter sur la page Facebook de Secret d'Info, tout comme d'ailleurs sur notre compte Twitter Investigation RF. Allez, restez avec nous dans quelques instants, on va voir que la bière, c'est peut-être une boisson conviviale, surtout le week-end, mais ça peut aussi soutenir et accompagner les pires des dictatures.
Cause you're never gonna get it clean when it's easier to leave.
C'est frais, c'est enlevé. Parfait pour une émission de rentrée. C'était Miles Kane, le chanteur anglais qu'on avait connu chez les Little Flames et les Rascals. Et ce titre est extrait de Loaded. C'est son nouvel album qui est sorti juste cet été.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors nous recevons maintenant Olivier Van Bemmen, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez Heineken en Afrique, c'est un livre qui raconte comment la célèbre marque de bière néerlandaise a prospéré sur fond de corruption et de soutien aux dictatures. Mais pour commencer, il faut peut-être expliquer que l'Afrique, et on ne le sait pas forcément, c'est un continent où on consomme énormément de bière.
C'est vrai que beaucoup d'Africains adorent la bière, et ce qui rend le continent très intéressant pour les grands groupes brassicoles, c'est que c'est surtout à l'avenir qu'on attend de la consommation énorme. Maintenant que le niveau de vie augmente un peu pour bon nombre d'Africains,
il y a une nouvelle attentes, classe moyenne.
Voilà. Et c'est vraiment pour beaucoup d'Africains. Le fait d'accéder aux classes moyennes va ensemble avec prendre de la bière industrielle. Donc c'est une chance énorme pour Heineken, pour AB InBev, leur grand concurrent, et pour Diageo, l'anglais. Ce sont les meilleurs.
Vous expliquez qu'il y a des endroits où c'est un véritable culte, la bière. Vous parlez du Burundi notamment, où Kadhafi aurait d'ailleurs proposé de remplacer une brasserie par une laiterie, et ça fait un tollé.
C'était pas une bonne idée, en fait, du guide révolutionnaire de l'époque. Oui, le Burundi, j'ai pas vu un pays, c'est le second pays le plus pauvre du monde. Et ils dépensent presque rien à l'éducation, aux vêtements. Donc c'est vraiment tout leur argent va à la bière.
Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que la bière, ça a aussi un côté obscur. Et un des exemples les plus terribles que vous citez, c'est le cas du Rwanda, où vous ne dites pas que la bière est responsable évidemment du génocide, mais vous dites qu'elle y a contribué.
Heineken est effectivement impliqué dans le génocide rwandais. La bière a joué un rôle. Les génocidaires étaient souvent ivres pendant qu'ils ne tuaient.
Donc le fait de boire aurait encouragé les massacres.
Oui, ça a motivé les génocidaires. En même temps, c'était aussi une récompense après une journée de tuerie. Les génocidaires étaient souvent motivés par l'attente d'une grande quantité de bière. Et la bière industrielle, à cette époque au Rwanda, était rare. C'était une boisson de dimanche. Mais en ces temps de génocide, c'était la fête de la bière, en quelque sorte.
On distribuait la bière.
Oui. Les distributeurs ont contribué à récompenser donc les génocidaires. C'était très important pendant cette période-là. Et de l'autre côté, il y a aussi le côté taxe fiscale. Le fait que Heineken a continué à produire de la bière, c'était une source importante de revenus pour ce régime.
Alors en même temps, Heineken dit qu'à l'époque, sa brasserie était hors de contrôle, que donc ce n'était pas de leur fait si la bière continuait à couler.
Tout à fait. Et ça m'a étonné beaucoup d'ailleurs, parce que j'avais jamais entendu cette version. L'année dernière, pour la première fois, j'étais avec le directeur Afrique et ensuite avec le PDG. Et tous les deux, ils ont commencé par eux-mêmes de raconter cette histoire que la brasserie était devenue autonome et gérée par des employés, leurs propres employés, radicalisés. Or, c'est le directeur Afrique de l'époque, c'est un Français, il s'appelle Jean-Louis Homé. Il m'a dit que la version actuelle, la nouvelle version de Heineken, il m'a dit, non, c'est vraiment... Il dit ça maintenant, c'est pas vrai.
Il la conteste en tout cas.
Oui.
C'est ce qu'il vous a dit. Alors, vous citez d'autres faits qui sont extrêmement troublants. Au Nigeria, par exemple, vous racontez qu'en 2006, la filiale de Heineken a utilisé 2500 prostituées pour convaincre des clients des bars de changer de marque de bière pour prendre de la Heineken, enfin la filiale locale, quoi. Et leur rôle était de faire croire que la bière rendait plus puissant sexuellement.
C'est une des grandes histoires de la bière en Afrique, de la bière noire en fait, le Stout comme on dit, Guinness, c'est une marque très connue. Heineken a sa propre marque aussi, Legend, et à cette époque-là, Legend n'allait pas très bien. Donc le PDG Heineken Nigeria de l'époque, il avait conçu une idée. Il a engagé 2500 prostituées. Mmh. Il les a embauchées dans des bars, dans des cafés, pour motiver, pour encourager les clients à prendre cette bière. Et apparemment, ça a bien marché parce que les ventes ont été quadruplées.
Au Congo, les filles seraient forcées de coucher avec des responsables de la brasserie et elles considéreraient les activités sexuelles comme faisant partie de leur travail.
Oui, ça vient en fait d'un document interne de Heineken qui a révélé cela.
Et alors, quand on dit responsable, c'est des expatriés, hein, ce sont des Européens pour la plupart.
Oui, bon, ça peut être aussi des Congolais. Hein. Depuis un certain temps, Heineken a fait des efforts pour africaniser son management. Donc, c'est pas seulement
continue.
Le fait qu'elles doivent coucher avec, par exemple, des gérants de bars, même avec les clients, ça continue, effectivement.
Ouais. Ouais. Et vous dites que elles devaient, ces filles, boire 5 à 10 bouteilles par jour.
C'est la même enquête interne. Il faut savoir aussi que les bouteilles au Congo, ils ont un contenu de 72 centilitres, donc ce sont presque des bouteilles de vin. Je ne sais pas comment ces filles peuvent faire cela, mais effectivement, dans cette enquête interne, on lit que c'était bien de boire avec les clients pour pousser les clients à boire plus, et donc 5 à 10 de ces bouteilles. Ouais.
Alors il y a ces pratiques extrêmement contestables, et puis il y a également ce qui est de l'ordre du soutien aux dignitaires et donc de fait aux dictatures. Alors par exemple au Congo, vous expliquez que Heineken met à disposition de hauts dignitaires, dont la femme de Joseph Kabila, le président, une résidence de luxe, un procureur, et lui hébergé à la brasserie. Il y a aussi toute cette logistique qui est mise en place pour favoriser, avantager les dirigeants.
Oui, même le président Kabila, il a été logé dans une villa dans la ville de Boma, où Heineken a aussi sa brasserie. Oui, c'est effectivement une manière d'avoir des amis, d'éviter des problèmes, d'avoir des contacts, et ça marche très bien.
Et puis, il n'y a pas de frontière entre finalement la brasserie et le pouvoir dans plusieurs de ces pays, parce que les brasseries sont co-administrées par l'État et par Heineken. On peut citer le Burundi. Alors, au Burundi, il y a le Kurunzi, donc, qui est le président dictateur, qui s'est présenté 3 fois aux élections. Il n'avait pas le droit de le faire parce que la Constitution interdisait cette 3e fois. Mais le président de la Cour constitutionnelle avalise tout de même cette élection. Et comme par hasard, il est récompensé. On lui donne un poste au conseil d'administration de la brasserie de Heineken.
Oui, ce président du Conseil constitutionnel a été récompensé par une poste qui paye beaucoup plus. Il n'a pas grand-chose à faire.
30 000 euros par an, ce qui là-bas est beaucoup.
Oui. L'un des juges les plus importants du pays est maintenant le numéro 1 de Heineken au Burundi. Ouais. Et ce qu'il fait, bon, c'est qu'il fait des listes ethniques. Et dans ce pays où il y a comme au Rwanda, il y a des Hutus et des Tutsis, et il y a souvent des tensions entre ces deux ethnies. Il fait des listes ethniques de qui est Hutu et qui est Tutsi, parce que il croit qu'il y a une surreprésentation des Tutsis dans cette entreprise. Mais des listes ethniques dans un pays qui est, on dit, au bord d'une guerre civile.
Extrêmement tendu, justement, autour des problèmes ethniques.
Oui.
Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, que vous évoquez dans le livre aussi, c'est celui de l'optimisation fiscale. Parce que les brasseries africaines, c'est aussi un bon moyen, et vous l'expliquez, d'envoyer de l'argent en Suisse.
Ça, c'était l'histoire de l'envoyer en Suisse. Maintenant, ça passe par la Belgique. En Belgique, il y a une filiale qui s'appelle Ibecor, qui est présentée comme une entité logistique qui est censée livrer les ingrédients, les produits pour les brasseries africaines, seulement pour les brasseries africaines, pas pour celles des autres pays lointains.
Donc, ils rapatrient l'argent de ces
brasseries en
Belgique.
En fait, ils surchargent tout ça. Ils demandent des prix exagérés.
Surfacture.
Oui, ils surfacturent ces brasseries africaines qui sont souvent pas à 100% Heineken. Donc les partenaires de Heineken y perdent, la fiscalité locale perd de l'argent là-dedans, et donc c'est un moyen de repatrier de l'argent sans payer des taxes.
Donc ces pays africains perdent de l'argent qui se retrouve de fait en Belgique, où on peut optimiser fiscalement.
C'est
ce qu'on comprend. Alors, vous citez beaucoup d'exemples, qui sont des exemples qui remontent un peu quand même, hein, quand je parlais de 2006 tout à l'heure. Est-ce que ça a changé ?
Heineken, maintenant, ils essayent de montrer au moins que ça va mieux, mais je pense que ça va pas très rapide en tout cas. Et ce que j'ai découvert, c'est surtout les filles promotrices. Ils ont promis que ces filles peuvent travailler dans des bonnes circonstances à la fin du mois de juin. Et moi, je suis allé au Kenya récemment et j'ai découvert que les filles travaillent toujours dans des circonstances pas du tout bonnes. Elles font de la prostitution pour arrondir les fins de mois et... Ouais.
Bon, on aura appris pas mal de choses finalement aujourd'hui. Moi, j'avoue que Heineken en Afrique était un sujet qui m'était relativement étranger et ces pratiques-là sont plutôt effectivement surprenantes. Alors, je rappelle que le titre de votre livre, c'est Heineken en Afrique, tout simplement. Merci Olivier Van Bemmen et je précise qu'il est édité par la Rue de l'Échiquier. C'est la fin de Secret d'Info. Merci à Martin Broyer pour sa précieuse collaboration. Merci à Christophe Imbert, notre réalisateur. Merci à Fabrice Desmas qui était à la technique aujourd'hui. Et à Jean-Baptiste Audibert qui assurait lui notre programmation musicale. Dans quelques instants, Denis Chessou et CO2 Mon Amour vont vous emmener dans le Vercors avec Daniel Pénac. Et quant à moi, au nom de la cellule investigation de Radio France, je vous souhaite un excellent week-end.